pardonner pour être pardonné à son tour, cela ne s'est-il pas dit d'un mercenaire? Cela ne mériterait-il pas d'un calcul intéressé? Mais d'un autre côté, faudrait-il toujours chercher à faire le bien sans jamais rien en attendre, sans jamais rien attendre de Dieu? Une telle attitude ne serait-elle pas un peu prétentieuse, un peu comme l'attitude de la moralité ancienne? Et pourtant, ne disons-nous pas tous les jours dans notre prière, pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon de Dieu semble bien conditionné par le pardon que nous exerçons à l'égard des autres. Et ce pardon n'est pas facultatif. C'est ainsi que mon Père vous traitera si vous-même ne pardonnez pas. C'est l'écho de l'avertissement du sage de l'Ancien Testament qui dit, pour le circoncide, pense à ton sort final. Alors, toute notre vie chrétienne ne serait que l'apprentissage de l'intérêt bien compris, étendu aux choses de l'au-delà, ce qui nous permettrait d'être en toute bonne foi des libéraux conservateurs. Pense à ton sort final, nous dit l'Ancien Testament. Non pas parce que l'Écriture se plairait à mener le fiel nos joies de tous les jours, ou à teinter en sombre nos espoirs, mais parce que ce sort final n'est pas tant une fin contre laquelle on se heurte de la nuit qu'un but à atteindre. Lorsque l'Église nous invite à prendre en compte notre sort final, ce n'est pas pour faire de notre vie une méditation désabusée sur un corps, un sablier humain et un crâne brisé. Notre sort final n'est pas le tombeau. C'est un but qui transfigure et la mort et la vie, comme le rappelle précisément saint Paul aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Donc, quand l'Église nous dit « pense à ton sort final », ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est au contraire pour nous libérer de la peur. À chacun, elle dit « ce qui donne du prix à ta vie, c'est ton rapport au Christ. Ce n'est pas ce que tu possèdes, ce ne sont même pas tes bonnes œuvres, rien de cela ne t'appartient, parce que toi-même, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens au Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ qui s'emploie. » Le dynamisme de notre vie de chrétien, c'est de devenir semblable au Christ, c'est de devenir le Christ. Notre vie n'est rien d'autre qu'un continuel passage au Christ, un long et difficile processus d'incorporation au Seigneur. C'est là le dynamisme de notre baptême. Et tel est aussi notre sort final, nous identifier au Christ au point de sentir et d'agir en tout comme lui. Dès lors, le ciel, la récompense, n'est pas quelque chose d'extrinsèque, comme une récompense humaine, quelque chose qui viendrait après, c'est l'aboutissement surnaturel de nos aspirations les plus intimes et d'un processus déjà enclenché et en partie réalisé dans cette vie ici-bas. Alors, réalisons notre évangile à cette lumière. Nous comprendrons alors que s'il est de notre intérêt véritable de pardonner, notre pardon ne procède pas en effet dans un calcul, le dernier nom qui n'est autre que celui de la logique de la charité qui nous habite parce que nous devenons semblables au Christ. Que nous dit cette parole? Elle nous montre un débiteur absous et pourtant impitoyable envers son propre débiteur. L'énormité de la somme en jeu nous dispense de toute enquête historique. L'histoire de l'économie, M. Coursier-Ferrand. pas nécessairement l'un de nos ministres épinglé par la justice, même le seul d'entre eux, probablement. C'est l'homme, tout simplement, c'est-à-dire vous et moi. Qui pourrait en effet racheter à Dieu sa propre existence? Qui pourrait se prétendre juste devant lui par ses propres forces sans avoir besoin de la grâce? Face à Dieu, nous sommes tous des débiteurs insolvables. Mais un simple mouvement du cœur de reconnaissance de notre misère suffit à obtenir sa grâce. Or, on dit en effet que le maître fut saisi de pitié devant la détresse de son serviteur. Et il nous accorde bien plus que nous n'osons demander. Le serviteur demande un moratoire. C'est le sens bien compris du mot miséricorde dont on nous a tant abreuvé ces dernières semaines. On comprend alors de l'intérieur la douleur qui saisit ses compagnons et la colère qui s'empare du maître lorsque ce serviteur n'a plus d'imité la bonté dont il vient d'être le bénéficiaire, agit avec dureté envers son propre débiteur, alors l'autre mendiant, qu'il n'a plus de dette à éteindre vis-à-vis du maître et donc n'a plus besoin d'argent à trouver dans l'urgence. Ce serviteur rend volontairement la logique du pardon. Car pardonner pour Dieu, ce n'est pas fermer les yeux sur le péché, pas les imputer en nous laissant si mauvais qu'avant. Ce serait une conception éternelle. Pardonner pour Dieu, c'est nous enlever les péchés, c'est donc libérer en nous la capacité que nous avons à faire le bien et donc à imiter Dieu. En un mot, c'est restaurer en nous l'image du Christ. Pardonné par Dieu, je reçois la force intérieure qui me permet à mon tour de pardonner. Telle est la logique divine de charité, de l'amour, qui culmine chez les saints et en particulier chez les martyrs. Chez les chrétiens, je le rappelle, sont des gens qui pardonnent à leur nom. Dieu nous fait miséricorde le premier pour qu'à notre tour nous soyons miséricordieux. De même que la chaleur transforme le bois en feu, de même que l'amour transforme l'être aimé en quelqu'un capable d'aimer à son tour. Aussi dur que soient les offenses dont nous sommes ici-bas les victimes, il faut accepter de croire qu'elle ne valent pas plus de 100 degrés au regard des 10 000 talents dont nous nous rendons débiteurs envers Dieu par notre libre participation au péché du monde. C'est dur, certainement, à avaler, mais c'est pourtant évangile. Si nous comprenons cela de l'intérieur, si nous faisons nous-mêmes l'expérience d'être graciés, gratuitement, librement, et par amour, alors l'avertissement de l'Écriture sainte deviendra superflu. Nous serons responsables de nos actes, non pas parce que nous sommes peur, mais parce que nous aurons compris que notre vie, d'ici-bas et au-delà, forme un tout. Le pardon donné aux autres surgira de la reconnaissance du pardon reçu de Dieu et attendu de lui au moment où devant son premier. Notre perspective ne sera plus « je fais le bien pour éviter le châtiment de Dieu », ce sera « je fais le bien parce que c'est devenu la logique de ma vie. Par mon baptême, j'ai été justifié et je suis devenu sans parole au Christ qui a pardonné à ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient » pour reprendre la parole de saint Paul sur la mission. Oui, pensons à notre sort final si jamais nous sommes tentés de rompre cette logique de l'amour, car souvenons-nous avec Saint Jean de la Croix, au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. Ainsi soit-il. Messie.